Le 1er juin, c'est jeudi, l'équipe nationale suisse dispute un match amical contre la Biélorussie au stade de la Maladière à Neuchâtel.
L'occasion pour nous de parler foot et de nous intéresser à la profession de footballeur en Suisse. Est-elle reconnue? Quelle est la légitimité des joueurs?
Et pour en parler, nous recevons Raphaël Epoli, responsable de l'Observatoire du football, Centre international d'études du sport à l'Université de Neuchâtel. Bonjour.
Bonjour.
Comment se porte le football suisse?
Ah, disons plutôt bien, oui. Je pense que le football suisse, c'est vrai qu'il faut faire une différenciation. Les footballeurs suisses se portent pas trop mal. D'ailleurs, la Suisse, c'est le 5e pays qui exporte le plus de joueurs dans les 5 grands championnats européens, c'est-à-dire en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Angleterre. Donc, de ce point de vue-là, le footballeur suisse a la cote. Après, la Suisse, d'un point de vue football, c'est un petit marché. Les clubs, ils sont souvent en difficulté. C'est moins facile d'être footballeur en Suisse que dans d'autres pays. Mais, somme toute, on peut dire que le football suisse jouit d'une assez bonne santé à l'heure actuelle.
Ça veut dire qu'un footballeur suisse, s'il veut percer, s'il veut faire une belle carrière, forcément elle va passer par l'étranger, cette carrière. Avoir une carrière en Suisse, vivre du foot en Suisse, c'est beaucoup plus difficile.
Oui, c'est certain. Disons que aujourd'hui, il y a une centaine de joueurs suisses qui jouent à l'étranger, dont une bonne cinquantaine dans les meilleurs championnats. Ceux-ci sont, même si parfois après ils retournent dans les championnats suisses, et notamment en Super League, à un certain moment de leur carrière, la reconnaissance passe par un départ à l'étranger. Après, on peut bien gagner sa vie en Suisse aussi, mais tôt ou tard, au cours de la carrière, il y a un moment où celui qui a la chance ou la possibilité de partir, il doit la saisir parce que c'est à l'étranger qu'il va avoir véritablement sa notoriété. Et puis d'ailleurs, en équipe nationale suisse, rares sont les joueurs qui jouent dans les clubs suisses. Il faut plutôt partir à l'étranger aussi pour être sélectionné dans la sélection en Suisse.
Est-ce que ce métier de footballeur est-il pris au sérieux dans notre pays?
Mais disons qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui sont faits avec notamment des formations sport-études, avec une meilleure conciliation, pas seulement dans le football, d'une carrière sportive avec les études. Mais c'est vrai que par rapport à d'autres pays, notamment la France voisine, où on a carrément des vrais centres de formation où les jeunes, dès le plus jeune âge, sont nourris, logés dans un centre. Ils ont l'école sur place, on va les aider finalement à avoir ce double projet, même si au final peut-être le football devient parfois trop dominant et puis le deuxième projet, c'est-à-dire le projet scolaire, est un peu oublié. Mais en tout cas, il y a ces possibilités-là en Suisse, c'est plus dur, mais disons l'association, les clubs encouragent quand même les joueurs à continuer la scolarité, à faire des apprentissages. Mais non, c'est pas le cas pour tout le monde. Et puis, à un certain moment, il faut faire un choix parce que quand on devient déjà semi-professionnel, on signe un contrat dès l'âge de 18 ans, on s'entraîne le matin, l'après-midi, on a des déplacements, donc ça devient quand même difficile de concilier les deux choses. Et il y en a quand même pas mal qui prennent le risque de tout consacrer au football, même si, voilà, au final, ça peut pas forcément marcher toujours, quoi.
Le modèle sport-études que vous avez expliqué, c'est le même à l'étranger, par exemple chez nos voisins français, ou est-ce qu'il y a une mise en place qui est un petit peu plus poussée que chez nous?
Non, en France, par exemple, il y a des contrats, différents types de contrats, très jeunes, dès l'âge de 16 ans, le joueur peut signer un contrat stagiaire, ce qui lui donne la possibilité d'avoir 3 ans en petit salaire déjà en tant que footballeur, tout en continuant sa scolarité aussi, au sein de ces grandes structures que sont les centres de formation. En Suisse, il n'y a pas ça, mais voilà, on essaye quand même de garder le jeune en contact avec la réalité scolaire, avec des aménagements horaires, etc. Donc c'est plutôt un modèle différent. On n'extrait pas le jeune ou moins facilement le jeune de son contexte. Et on essaie de faire en sorte qu'il puisse, avec quelques aménagements, continuer à poursuivre une vie plutôt normale, même si évidemment la carrière de footballeur prend beaucoup de temps, comme celle de hockeyeur ou d'autres sports. Mais voilà, il y a une approche quand même un peu plus similaire à celle allemande, où aussi on essaye quand même de garder les jeunes dans une structure scolaire, on va dire, normale, avec quelques aménagements, aussi parce que on se rend bien compte que extraire le jeune de son contexte, l'enfermer dans un centre, c'est pas non plus la panacée du point de vue du développement de la personne.
Parce qu'il y a, il y a aussi une coupure du coup avec voilà. Avec la famille, avec les amis. C'est vraiment on les déracine finalement.
Voilà, et c'est en Italie, il se passe comme ça. En France, ça se passe comme ça. C'est vrai qu'on a tendance un peu à extraire le jeune de son milieu, même s'il reste dans le pays. Après, il y a des transferts à l'étranger dès l'âge de 16 ans aussi, qui sont permis à l'intérieur de l'Union européenne. Ça, c'est une vraie problématique aussi. Il y a d'ailleurs pas mal de Suisses qui, à 16 ans, partent notamment vers l'Angleterre. Et à ce moment-là, ils se consacrent corps et âme au football avec quand même pas mal d'incertitudes et surtout une pression de faire carrière parce qu'à ce moment-là, dès l'âge de 16 ans, il peut y avoir des primes à la signature, des petits contrats avec de l'argent à la clé versé aux parents. Donc on voit bien que le joueur, très vite, peut devenir une sorte de vache à lait pour la famille ou en tout cas un espoir qui repose beaucoup sur ses épaules et qui peut être très difficile à supporter d'un point de vue psychologique.
Jusqu'à 9h, format A3.
Et nous sommes de retour avec notre invité, Raphaël Epoli.
Et on parle football ce matin et des joueurs de football.
Justement, alors les joueurs, on a parlé tout à l'heure de comment ça se passait pour le football suisse, comment on peut devenir professionnel. La question qu'on se pose aussi, c'est pourquoi est-ce que, je ne sais pas si ce mot existe, mais la starification des joueurs de foot, elle n'est pas la même en Suisse qu'en France, en Italie ou en Espagne, par exemple, où les joueurs sont vraiment devenus des stars.
Bon, disons, les marchés déjà ne sont pas les mêmes. Après, il y a quelques grands joueurs suisses qui sont, je ne sais pas, Granit Xhaka qui joue à Arsenal. Sans doute qu'on peut dire que c'est une star. Après, ce n'est pas Ronaldo ou Messi parce que, bon, ils ne marquent pas autant aussi, quoi. C'est souvent les attaquants qui gagnent les ballons d'or, qui font rêver plus que les autres. Et les Suisses, ils ont pas mal de très bons joueurs, mais peut-être pas encore un joueur de ce calibre-là, en tout cas jusqu'à présent. Mais non, il y a aussi une culture football sans doute qui est plus grande. En Suisse, il y a aussi la concurrence de hockey sur glace. Il y a d'ailleurs beaucoup de stars qui viennent en Suisse pour être tranquilles. Donc on est un peuple aussi peut-être qui aime pas trop les vedettes, ou en tout cas culturellement on est peu enclin à porter très haut en individu. Je pense que ça tient à la culture, mais aussi finalement le football. En Suisse, il faut savoir que le sport, même si on a eu des sportifs exceptionnels, il a toujours resté un peu du domaine du privé et il n'y a pas eu trop d'investissement non plus, d'une manière générale, de l'État ou des médias sur les sportifs. Aujourd'hui, évidemment, on parle beaucoup de sport, mais toujours quand même avec une certaine dose de raison qu'il n'y a pas forcément dans des pays où finalement, je ne sais pas, l'Italie, l'Espagne ou même l'Angleterre avec le football, ça devient carrément un peu démesuré, exagéré. Donc en Suisse, on est un peu préservé de tout ça. Je pense que c'est quand même positif.
Donc le foot, c'est pas une religion comme ça peut l'être dans certains autres pays. Et puis les enjeux économiques sont bien moindres ici que, bah, par exemple, en Angleterre, en Espagne, en Italie ou en Allemagne, des sommes de transfert sont juste incroyables, des salaires de joueurs, le rôle des agents, etc. Ce côté de l'argent, on est un peu aussi épargné par ce côté-là, finalement ?
Oui, le football en Suisse est professionnel. Ça s'est professionnalisé à partir de la fin des années 70, on va dire, progressivement. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un bon système professionnel avec une ligue, une association qui sont fortes, qui ont une bonne stratégie et vision d'ensemble et qui savent aussi raison garder, sauf quelques clubs et quelques manies de grandeur qu'on a malheureusement connues aussi dans la région. Mais d'une manière générale, c'est encore assez sain par rapport à certains pays où notamment les droits de télévision ont fait exploser les recettes des clubs. Et ça se monnaie aujourd'hui en milliards d'euros. Il y aura bientôt le club le plus riche au monde, qui est pour l'instant Manchester United, qui veut atteindre dans 2-3 ans le milliard de budget annuel, quoi, ce qui est absolument fou, quoi, parce que même moi, en Bâle, qui a quand même qui est le club le plus riche en Suisse, n'arrive pas à 100 millions en une saison normale. Et en club de Super League, on est autour en moyenne de 10-12 millions de francs, ce qui est déjà beaucoup. Mais on est loin du milliard de Manchester United.
Pour en revenir au football, est-ce que les sports collectifs en Suisse sont un petit peu moins prisés que les sports individuels? Quand on voit par exemple le ski alpin qui cartonne, le tennis avec Roger Wawrinka, avec le VTT aussi, avec les JO et la médaille d'or l'année passée, est-ce que c'est la collectivité qui fonctionne un peu moins bien?
Bon, je dirais pas ça, parce que en même temps, le hockey sur glace, c'est quand même pas mal du tout, et le foot non plus. Donc, quelque part, il y a aussi des très bons résultats au niveau des sports collectifs. Après, il y a le bassin de la population quand même, qui est beaucoup plus restreint. Donc, c'est quand même plus facile d'avoir des champions dans un sport individuel, une seule personne qui peut percer, alors que en équipe de foot, il faut au minimum 11 et voire plus joueurs, en hockey sur glace encore plus. Donc c'est clair que c'est plus difficile pour un pays comme la Suisse, même si dans le football, ce qui a été fait de bon et peut-être un peu en avance par rapport à d'autres pays d'immigration aussi, c'est d'avoir intégré vraiment les joueurs d'origine étrangère qui ont grandi en Suisse, qui ont été formés en Suisse. Et par exemple, en Italie, on a eu beaucoup plus de peine à faire ça. L'Italie, qui a aussi un pays d'immigration, qui ne donne toujours pas de nationalité avant l'âge de 18 ans, qui met beaucoup d'entraves bureaucratiques en enregistrement de joueurs étrangers dans les clubs. Et alors qu'en Suisse, on a plutôt été ouvert à cette frange de la population, ce qui a permis aussi de relever le niveau du football suisse.
Alors, tout à l'heure, on parlait notamment beaucoup d'argent, de salaire des joueurs. Est-ce que ce qui se passe actuellement avec la Chine, qui achète des joueurs à des prix absolument incroyables, est-ce que ça risque pas de perturber un petit peu tout le système économique du football, qui est déjà pas mal perturbé dans certains cas?
Ça dépend ce que vous entendez par perturbé. C'est vrai qu'il est perturbé par l'argent, dans le sens que l'argent est roi, et puis c'est la loi du plus fort et de celui qui paye le plus. Donc avec des valeurs humaines qui sont parfois défaillantes, ça c'est sûr. La Chine finalement s'inscrit dans ce mouvement de fond de d'économisation et de commercialisation du football. Elle n'en vante rien du tout. Et d'ailleurs, récemment, encore la semaine passée, il y a eu une décision du gouvernement chinois de taxer assez fortement les clubs qui font des dettes, et puis notamment d'obliger la présence de plus de joueurs chinois sur le terrain au détriment de joueurs étrangers. Parce que l'objectif de la Chine, c'est aussi non seulement de développer le football comme secteur économique, mais aussi développer une équipe nationale performante, qui puissent peut-être un jour, en tout cas participer, pourquoi pas, aller loin dans une Coupe du Monde. Donc la Chine n'a rien inventé. Au contraire, je dirais qu'aujourd'hui, il y a eu pas mal de dérives aussi dans le football chinois, mais il y a une prise de conscience quand même, et aussi une volonté de faire du football un outil d'identité nationale sans forcément faire jouer la planche à billets, ce qui n'est pas forcément bon pour les jeunes Chinois, parce que si vous avez que des étrangers payés à grand prix, à ce moment-là, ça ferme les portes aussi au développement de joueurs locaux, ce qui n'est pas le but des Chinois. Mais c'est vrai que le football, disons, il y a beaucoup d'argent en jeu, et puis la Chine, c'est un nouvel entrant qui a aussi renforcé ce processus.
Raphaël Epoli, on va se quitter dans quelques secondes, on est déjà au bout. J'ai juste une dernière question hyper rapide. La Suisse, elle la gagne quand la Coupe du Monde de foot?
Bon,
il n'y a pas de réponse rapide, c'est ça.
Voilà, je suis pas devin. Mais en tout cas, la Suisse, ne serait-ce que se qualifier, c'est déjà un succès, parce que n'oublions pas la taille de nos pays, c'est pas très grand, c'est un des sports les plus populaires au monde. Donc, 10 ans après, une fois qu'on est qualifié, on peut rêver, mais qualifions-nous d'abord, ce sera déjà bien.